France Inter.
Bonjour et bienvenue dans la
Bonjour
Daniel Morin, salut à toute la bande ce matin. Nous sommes sur du haut de gamme dans cette BO.
Parce on reçoit un couple qui sur scène se promet et nous promet de dire la vérité, rien que la vérité. Toute la vérité, c'est Sylvie Testu et Stéphane De Groot.
Un couple qui se dit la vérité, belle fiction.
Bonjour Stéphane. Ravi que vous soyez là, on va parler donc de cette pièce « La vérité et tout » est dit dans le titre « La vérité ». Et ce que l'on va faire, c'est un petit tour de table, si vous êtes d'accord, pour commencer, pour se mettre comme ça en bouche le principe de la vérité. Chacun, je vous demande une affirmation, et puis on doit rapidement deviner si c'est vrai ou si c'est faux. Amandine ?
Moi, je suis la nièce de Tex.
Nièce de sexe.
De Tex.
Ah oui, oui, enfin, c'est pareil, hein, c'est une lettre près.
Tex qui ?
Comment s'appelle-t-il en vrai, Tex ?
Tex, le présentateur.
Oui, mais comment s'appelle-t-il en vrai ?
Son vrai nom, c'est Jean-Christophe le Texier.
Non.
Ah bah ok, c'est bon alors.
Si.
Bah oui.
Là, c'est la vérité.
Alors moi je dis que c'est vrai.
C'est vrai.
Yes, bien joué. J'adore.
Ça sent pas mon humour.
Mélodie.
Ma mère a été Claudette.
Ah.
Non. 2 ans avant sa mort.
En 76.
De Claude François. Arrête. J'ai failli pas oser.
Elle a pas été Claudette 2 ans après sa mort. Non.
Elle avait un nom de Claudette, un surnom.
Non.
Non. Et donc
elle a eu une Cartier.
Elle a fait.
Parce que, ouais, par lui, parce qu'il en offrait.
Alors c'est vrai.
Il était blond.
Alors c'est vrai, parce qu'il était super pote avec le boss de quartier. Ça, je suis sûr que c'est vrai.
Non, c'est faux. C'est la mère d'une copine.
C'est la...
Il y avait une base. Leïla ?
Moi, il y a pas très longtemps, j'ai fait un début de massage cardiaque et j'ai aidé à sauver quelqu'un.
Oh oui, c'est vrai.
Je suis sûr que c'est vrai.
Et la personne est sauvée ?
Non.
Parce que les pompiers sont intervenus après.
T'avais pris des cours de.
Je vis avec un ancien pompier bénévole volontaire.
Oh. Donc ça, c'est vrai.
J'ai les gestes de début.
C'est vrai.
Donc c'est vrai.
C'est faux.
La personne est morte.
Ce qui est faux, c'est que tu aies sauvé quelqu'un ou que tu viens de pompier.
Le premier est faux. Le pompier, il est dans ma vie.
Mais elle ment trop bien.
J'adore les pompiers, c'est pour ça que j'adore les pompiers.
J'adore.
C'est un métier.
Pardon ?
Ouais, ok, d'accord. Tanguy ?
Brian Mulcahy, le chanteur de Placebo, m'a demandé d'un air inquiet si j'allais bien ou pas.
Oh oui, c'est possible ça, oui.
Attends, c'était pendant un concert ?
Ouais.
Où ça ?
T'es tombé dans les pommes ?
Ouais.
Mais c'était où ?
Voilà.
Et t'étais sauvé par
les gens ont commencé à me marcher dessus, c'était aux Vieilles Charrues, donc 70 000 personnes devant le truc. Moi, j'en pouvais plus. Et là, j'avais la chance d'être à côté d'un gros Australien qui venait, un Australien quoi.
Ça c'était le pompier là.
Et qui m'a soulevé, qui m'a posé sur les gens. J'ai fait un espèce de, je sais pas comment on appelle ça, un slam quoi.
Quand t'es porté par le public quoi.
Voilà. Et puis je me suis effondré dans la fosse comme ça parce qu'il y avait personne pour me rattraper réellement. Et là, le type me regarde et me dit, is it okay ? Ou en plein concert, donc voilà. C'était chouette. C'était mon moment.
Alors c'est faux parce qu'il parle français.
Il a parlé français. Il a parlé anglais.
Is it okay?
Is it okay? Il joue un truc comme ça. Ouais.
En un seul mot.
Non, mais vraiment.
Ok.
C'est faux. Ah, non, c'est vrai.
C'est vrai.
Il avait déjà dit que c'était vrai.
Non, mais oui, c'est vrai.
Voilà. Lisa.
J'ai le prénom d'un garçon que j'ai rencontré en vacances tatoué sur mon corps.
Non.
Oui.
Mais non, quelle erreur. C'est pas possible.
À quel endroit?
Un endroit qu'on ne voit pas comme ça.
Alors, c'est déjà pas sur le front.
Non, c'est faux.
C'est vrai, parce que c'est mignon.
Continuons, c'est quoi le prénom ?
Il s'appelle Joshua.
Waouh.
Ah oui, c'est sorti comme ça.
Tu l'as rencontré où, Joshua ?
Je l'ai rencontré à New York, mais il habite en Afrique du Sud.
Récemment ?
Il y a 2 ans.
T'es toujours avec lui ?
Non, on n'a jamais été ensemble.
Donc, moi, je dis non.
T'as tatoué le prénom d'un mec avec qui tu n'as jamais été.
Mais sur le moment, c'était les vacances.
Ouais. Bah oui.
Non, j'y crois pas. Non.
Et puis tu es naïf en vacances.
Tu as toujours le tatouage.
Sylvie n'y croit pas, Stéphane non plus, nous non plus.
Moi j'y crois.
Ah ouais.
Alors
non, j'ai pas fait.
Daniel Morin.
Il voulait pas.
Je suis Tex.
Ok, c'est vrai.
Moi j'ai joué dans l'équipe de Rai, Basile Boli et Antoine Comboiré.
Un match de gala.
Oui, c'est d'autres questions, quoi.
Bah non, on a le droit de poser des questions.
C'était quand
ce serait. Et ben, c'est entièrement vrai.
Et ben voilà.
Ah, wow. Ouais.
Ouais.
Wow.
On n'a
pas
demandé. Ouais. On t'a pas demandé
si c'était vrai. Si vous êtes marré, bah, parce que si vous êtes voilà. Et okay. Vous pensiez que c'était pas vrai. Bah, c'était vrai. C'était l'occasion de prendre la seule douche commune de ma vie avec Basile Boli.
J'aurais dû commencer par ça.
C'est lui.
Lors de mon premier film que j'ai tourné en Allemagne, avec la maquilleuse, on faisait des paris et celle qui ratait faisait un piercing. J'en ai fait 4.
Où ça?
Wow, c'est fou.
Des piercings.
À la langue, au ventre, au nez, des deux côtés.
Non mais attends, quel genre de paris? Genre un tépa cap ou
Non, des paris sur la journée de tournage. Elle me disait on finit à 20h. Moi je disais c'est 21h, des trucs comme
si
ça.
Si j'ai raison, j'ai tort, un piercing.
Un
c'est
piercing.
Chaud vous pour l'heure de dépassement quand même.
Vous avez fait ça tous les jours, t'aurais pu terminer complètement trop.
Moi j'ai parié que le journal de midi arrivait à midi, j'ai 120 piercings. Non, c'est faux.
Alors ça a bien cicatrisé dans le nez. Hein.
Moi, non, je dirais que c'est vrai, parce que c'est crédible, et puis, l'endroit des piercings paraît assez précis, quand même.
Qui dit que c'est faux?
Moi,
c'est
faux. Ouais. C'est faux, évidemment.
Qui dit que c'est faux? Ouais, la majorité de...
Non, c'est vrai.
Ouais.
C'est sûr. On ment pas sur les piercings.
C'est vrai, et en plus, j'étais hyper jeune, je savais pas. Ils faisaient ça sans anesthésie, ils me l'ont fait le week-end, vendredi soir à la langue. Je suis arrivée le lundi avec la langue gonflée, je crois, comme ça. Les autres, elle était verte.
Stéphane de Groot?
Moi, j'ai demandé gentiment un jour à un responsable de chez Alpine si je pouvais, s'il était possible, que j'essaye la Formule 1 d'Esteban Ocon. Et je me suis retrouvé quelques semaines plus tard dans la voiture d'Esteban Ocon sur le circuit de Monza.
Mais bah ça, oui, c'est dans le doc, ça. C'est dans le doc, c'est
dans
vrai.
Le documentaire.
Dans le doc.
Ah oui, mais donc il bon, y a des gens qui n'ont pas vu le doc.
Oui, nous on l'a vu.
C'est une manière de faire la promo du doc. Non, j'en ai une autre.
Oui. Si, trop tard.
Ah non.
Mais non,
on peut effacer, non.
Non, on peut pas effacer. On va parler de la pièce.
Mais il était sorti de la voiture.
Est-ce qu'on peut continuer à jouer pendant une heure au lieu de faire l'émission?
On arrête la monnerie.
C'est une belle formule.
Non, mais en tout cas, c'est
le fin de l'année scolaire.
C'est le point de départ de la pièce de Florian Zeller. C'est être capable ou pas de mentir, et puis ça dénonce un tout petit peu quand même l'espèce de mauvaise foi masculine.
Les hommes sont de mauvaise foi. La mauvaise foi, elle est partout.
Vous, en tout cas, vous êtes sérieux au niveau du mensonge quand même.
Si je mens, c'est parce que ma femme ne dit pas la vérité.
Non. Dès le début avec votre maîtresse, puisque Sylvie Testu est la femme de votre meilleure amie.
Pas du tout.
Elle va être compliquée cette émission. Elle va être très longue. Et donc vous trompez votre femme. Et vous trompez votre meilleur ami quand même, c'est ça le point de départ.
Et je me trompe moi-même.
Oui,
surtout. Peut-être,
c'est ça le point de départ. Bon, on en parle dans quelques instants, mais d'abord, voici vraiment Hold de Love qui est fan de Sylvie Testu et de Stéphane de Groot.
Mais évidemment.
Je suis fan de Stéphane de Groot. Je lève la main, Stéphane aussi de Groot. C'est l'empereur des jeux de mots, alors il faut faire très attention car jeu de vilo. Je suis fan de Sylvie Testu, mais j'avoue qu'il y a un de ses films qui m'a déçu. C'est le premier que j'ai vu qui parle des sœurs Papin. Il y a aucun mot sur Jean-Pierre, je trouve ça limite. Enfin, et vous êtes là aujourd'hui pour la vérité. Très bien, on se dit tout, ok, je vais commencer. C'est moi qui contrôle Daniel depuis 11 ans. Mais là, j'ai perdu le contrôle apparemment. Je suis fan de vous et là, je suis heureux. Car aujourd'hui, on va pouvoir faire un jeu. C'est un jeu hyper sympa et pas assez connu. Il faut deviner des chansons, c'est un blind test. Alors, la bande originale, je vous propose qu'on joue au blind test. C'est un jeu très simple, je vous fais que des chansons avec le prénom Sylvie. Et vous devez me donner le nom de l'interprète en remplaçant son nom de famille par testu. Je vous donne un exemple, par exemple. Sylvie, tu brûles mon esprit.
Johnny Testu,
bien évidemment. Voilà. Vous êtes prêts? Alors, ça compte. Sylvie, je m'appelle
Johnny. Hélène Testu.
Oui, Hélène Testu, évidemment. Yes, on continue. Un plus dur. Sylvie Jean, it's not my love. Michael Testu, yes. Sylvie, jolie. Les Beatles Tu. Attention, dernière chance, pas passer. Oh, la Sylvie.
Sacha Testu.
Sacha Testu. Alors, on arrête parce que c'est un peu triste pour la petite bête. Bon, on continue. Je suis fan de vous, alors peu importe, je s'appelle Testu.
Je s'appelle Groot.
Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Je s'appelle Groot.
Yeah.
Bravo. Avec le bain Testu,
excellent.
T'as osé faire des jeux de mots devant Stéphane de Groot quand même.
Ouais, j'ai
osé. Oh, belle réponse, belle improvisation.
Non, mais j'en fais un petit peu depuis le début de l'année, mais là, ouais, c'est vrai que
c'est un moment.
Je marche sur un terrain dangereux.
Non, tout va bien.
Devant vous.
C'est la reprise de cette pièce, La Vérité. Aviez-vous vu la première version? C'était Pierre Arditi et Fanny Cottençon.
Il y a plus de 10 ans, oui.
Ouais.
Mais en fait, c'est pas vraiment. C'est une reprise, certes, mais c'est pas vraiment une reprise.
Ah, le texte a été modifié ?
Non, mais c'est-à-dire que
c'est une reprise.
C'est une autre. La distribution est tellement différente. Ah, c'est un autre ton, c'est une autre mise en scène.
Il a pris un parti différent. Moi, je dois dire la vérité, j'ai regardé quand même en vidéo après avoir commencé à répéter.
Ouais.
Parce que ça m'intéressait, quoi. Je voulais voir un peu.
Par curiosité.
Ouais, voilà, exactement.
Le texte est resté le même ?
Oui.
À peu près.
À peu de choses près, oui.
L'histoire est. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire ou pas ? Parce que tout est. En fait, on est baladé au milieu de la vérité, au milieu des mensonges. Dans un premier temps, on assiste à une tromperie, ça on a bien compris la situation, à la mauvaise foi du mari qui n'écoute pas sa maîtresse, qui ne se rend pas compte, soi-disant en se rhabillant, cherchant sa chaussette planquée sous le matelas, n'écoutant pas qu'il ne fait que venir l'après-midi finalement pour avoir un rapport sexuel, mais qu'ils n'ont jamais passé une nuit ensemble, jamais un week-end. Bref, il est dans le déni le plus total. Elle, ce qu'elle veut, cette maîtresse en tout cas, elle en veut plus.
Oui, alors ce qu'on peut dire surtout, c'est que c'est un peu une chronique de la vie ordinaire, un mari qui trompe sa femme. Non mais je veux dire, c'est assez rare.
C'est du beaucoup vu au théâtre.
C'est pas rare.
Ouais. D'ailleurs, je préférais qu'on dise une femme qui trompe son mari.
C'est aussi le cas.
Oui, oui. Ce qui est hallucinant, je lui dis quand même dès le départ, toi et moi, c'est pas la même chose. Hein.
Oui, bah oui.
Ce que je veux juste dire par là, c'est que on part d'une situation assez normale,
traditionnelle au théâtre.
Oui, et Florian Zeller en fait quelque chose, une mécanique assez redoutable. On était très surpris. Très honnête, de voir la réaction hallucinante du public qui se marre comme un dingue, c'est des murs de rire.
À quel moment ça vous surprend ?
Mais à un moment donné, à la moitié de la pièce, il y a un truc qui bascule,
oui.
Et là, ça n'arrête plus de rire.
Ça s'arrête plus. Ouais.
Mais on s'est regardé en disant, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? La première où on découvre ça, c'est un truc de dingue.
Est-ce que ça veut dire qu'en jouant, il faut se mettre aussi dans le tempo du rire du public, Sylvie ?
Ah, on est obligé. Et d'ailleurs, au départ, c'est surprenant quand on n'a pas l'habitude. Moi, j'ai pas fait énormément de comédie. Et on nous entend pas, en fait. Si je continue de parler alors que les gens rigolent, on m'entend pas. Je suis obligé de redire la phrase, quoi.
Voilà, d'où le tempo dont je parle.
Exactement.
Il faut se caler, entre guillemets, sur
en fait,
les
on joue avec eux. Okay. Ils sont ce qu'on appelle le cinquième personnage, quoi.
Ouais. Et ce qui est assez dingue, c'est comme la pièce est assez dense, assez complexe, parce que ça va dans tous les sens, ça a un millefeuille. À un moment donné, en répétition, je sais pas pour toi, Sylvie, mais je ne comprenais plus trop ce qui se passait. Et on avait besoin du public, parce que le public, en fait, dans sa réaction, nous donne une réponse sur ce qui se passe.
Sur ce qui est normal ou pas, ce qui est surprenant ou pas, ce qui est choquant ou pas dans le comportement du
couple. En fait, ils ont une longueur d'avance sur ce qui se passe.
Il y a deux couples, l'un qui est joué, enfin, le couple est un couple entre Clotilde Courau et Stéphane de Groot, l'autre, c'est le couple Sylvie Testu, Stéphane Facot, votre mari dans une situation et votre meilleur ami est dans une situation désespérée puisqu'il a plus de boulot, ça va pas, il a pas le moral, et en plus donc
c'est un coup bas supplémentaire.
Voilà, vous assumez pas du tout cette situation et vous dites il faut que je lui dise la vérité, je n'en peux plus.
Elle culpabilise, ouais. Moi mon personnage culpabilise quasiment depuis le début. Elle est tiraillée entre l'attirance qu'elle a pour son amant et l'amour qu'elle a pour son mari. Et elle voudrait lui dire la vérité. Et en fait, dans cette pièce, vous avez super bien parlé de la mauvaise foi, du mensonge. Mais il y a aussi une chose, c'est que la fatuité de penser que l'autre est plus con que vous.
Ouais,
dans la pièce, ça existe beaucoup,
c'est vrai,
ça.
C'est vrai.
Et alors, moi, mon mari...
Et chacun croit manipuler, entre guillemets,
exactement.
Les autres.
D'où le ressort de la comédie.
Et alors, mon mari a quand même une chose pour lui, c'est que, ok, il a plus de boulot, ok, il est trompé.
Mais il est beaucoup plus beau que votre...
Mais il est moins con que ce qu'il donne à voir.
Bah oui.
Voilà, et il le cache.
Ouais, il joue au début le naïf, c'est-à-dire qu'il y a une scène dans les vestiaires de tennis. D'ailleurs, le décor et la mise en scène de Larissa Chola est impressionnante parce qu'on passe d'une pièce à l'autre, d'un appartement à l'autre, d'un vestiaire de tennis. Et ça va extrêmement.
Ouais.
Tout ça est fait en mouvement et à vue pour le public, mais on est complice finalement de ces déplacements. Et puis ça nous aide à comprendre où on va et d'où on vient. Et lui, il est le premier truc qui lui met la puce à l'oreille, c'est qu'il gagne au tennis alors que normalement, chaque fois, il perd. Et là, il dit : mais t'as fait exprès ? C'est quoi? C'est par pitié parce que je suis bientôt au chômage et la suspicion commence de naître, à naître à ce moment-là.
Oui, sur un détail. En fait, il y a un enjeu plus important qui se joue et là, il s'attache au fait qu'il gagne ou qu'il perde au tennis. Donc, c'est absurde.
Les deux ont des rapports de coq sur la victoire au tennis. Hein.
Mais c'est très drôle. À un moment donné, ce sujet-là du tennis devient un enjeu.
C'est son ego qui est touché.
Ça devient très très drôle cette histoire du tennis, alors qu'on s'y attend pas du tout. En fait, on est cueilli en permanence. À chaque tableau, il y a un nouvel enjeu qui apparaît et le public est surpris. C'est ça qui est drôle. C'est que c'est pas forcément juste le type qui trompe sa femme. C'est que sur des sujets parallèles, ça devient très très drôle pour rien en fait.
Avec toutes les phrases qu'on a déjà entendues, c'est-à-dire la nuance entre non, je ne mens pas, simplement je ne dis pas la vérité. C'est cette petite nuance qui est de dire l'omission n'est pas un mensonge.
Mais oui, mais c'est comme aussi dans la notion du mensonge.
Non,
mais c'est pas faux.
Hein. Il est dans la pièce, il est dans le personnage.
Il est total. C'est un documentaire pour lui. Hein. Sa vie est un doc.
Non, mais c'est intéressant de mentir. Enfin, on parle de l'art du mensonge, on parle pas de l'art de la vérité. Donc c'est un exercice qui est assez plaisant si c'est pour faire du mieux, pour faire du bien, pour ne pas blesser.
Non, c'est pas du bien.
C'est pour éviter de blesser surtout.
Pour éviter de blesser.
Oui, mais là, c'est pas la même chose.
Stéphane, je crois qu'on n'écrit jamais sur ce qui va bien, on écrit toujours sur ce qui va mal.
Bah oui, c'est ça qui fait rire finalement, mais c'est quand ça va mal.
En fait, ce qui est drôle, c'est de voir quelqu'un dans une mauvaise situation, là où il ne devrait pas se trouver. Et moi, réellement, comme l'a dit Stéphane, on s'est rendu compte que le public attrapait tout. On est, on sort d'un lit, et la première chose qu'il me dit en se rhabillant, c'est « ton mari, ça va ?» Alors là, c'est déjà plié, les gens rigolent. Et en fait, il se rend absolument pas compte de ce qui sort, quoi.
Et pourtant, ça, on pourrait dire que c'est du fédo, c'est du déjà vu dans le théâtre, la scène du mari qui trompe.
Tout le talent de Florian, d'ailleurs.
Ça s'arrêtera jamais, ces questions.
Mais oui, parce que c'est le point de départ, en tout cas.
Voilà.
C'est signé Florence Zeller, cette pièce portée donc au Théâtre Édouard VII par nos deux invités, Sylvie Testu et Stéphane de Groot, et également Clotilde Courau et Stéphane Facot, mise en scène par Ladislas Chollat. On en parle jusqu'à midi et demi, mais d'abord, voici, elle ment tellement bien, Lisa Delmoitié. Ça va, Lisa? Vous n'auriez pas écrit une pièce comme ça sur le mensonge et la vérité?
En fait, moi, je ne comprends pas les gens qui mentent, c'est bien simple, je dis toujours la vérité. Trop d'ailleurs, c'est un autre sujet. Donc les gens qui mentent à l'être aimé, arrêtez, c'est ignoble. Et l'être aimé qui souffrait quand vous apprenez qu'on vous a trompé, grandissez. Je veux dire, on est en 2025, on va vivre jusqu'à 150 ans, il y a plus d'applications de rencontres sur notre téléphone que de chinois dans le monde. Par pitié, faites-vous tromper, puis continuez votre journée, quoi. Mais la naïveté de croire que ça t'arrivera pas. Moi, si je rentre chez moi et que je trouve mon mec avec ma meilleure amie, je suis ronchon, certes, mais enfin, pas au point d'annuler mon cours de pilates, quoi. Ça coûte 30 balles à Paris, cette merde. Hein. Tout ça pour te faire martyriser sur une planche avec des ressorts, alors qu'il y a des caves à Berlin où on te le fait gratuit. Enfin, il paraît.
C'est une copine qui
ouais, c'est ça. Dans la pièce, votre personnage, Sylvie Testu et Stéphane de Groot, donc ont une liaison ensemble, mentent à leurs partenaires respectifs, mais vivent le mensonge différemment. Sylvie, vous vous sentez coupable de coucher avec un autre homme. Enfin, vous vous sentez coupable, après vous êtes fait culbuter quand même. Faut pas abuser. C'est marrant, comme quand tu trompes quelqu'un, la culpabilité semble toujours arriver après l'orgasme. Hein, le point guilty, il est après le point G, je crois. C'est ça. Mais vous, Stéphane, vous voyez plus le mensonge comme un moyen d'éviter de faire souffrir les autres. Et c'est vrai qu'un mensonge n'est pas bon ou mauvais en soi. Hein, tout dépend de l'intention. Si un Allemand te demande si t'as caché un juif sous le plancher, il faut mentir, il faut dire non. Est-ce que je suis en train de comparer tromper sa meuf à résister au nazisme? Oui, bon, bah, j'essaye d'ouvrir le débat dans les nations. Vaste question quand même que l'éthique du mensonge. D'après Emmanuel Kant, un mensonge est intrinsèquement mauvais, qu'il soit dit avec de bonnes ou de mauvaises intentions. Bon, après, c'est un philosophe qui dit ça. Qu'est-ce qu'ils y connaissent à la vie, les philosophes? Moi, j'ai de leçons de vie à recevoir de personnes qui portent une écharpe à l'intérieur. Hein. Moi, je me méfie des théoriciens, des philosophes et leurs grands principes. De la même manière que les profs de théâtre sont quand même souvent des acteurs ratés, je pense que si un mec se fait payer pour t'expliquer la vie, c'est qu'il était trop mauvais pour la vivre, quoi. Franchement, c'est vrai. Emmanuel Kant, il s'est jamais déplacé à plus de 60 km de son lieu de naissance, il s'est jamais marié, il faisait qu'écrire dans son petit bureau. Qu'est-ce qui va m'expliquer la vie? Sans blague que t'as jamais menti, Emmanuel. T'es puceau. Tu vas mentir à qui? Ta mère? Enfin bon. Alors attention, je rappelle que je n'aime pas le mensonge, mais oui, la solution en mensonge, c'est pas de dire que c'est mal. Non, pour moi, ma solution pour qu'on vous mente jamais, c'est d'être plus tolérant envers la vérité. Techniquement, ton mec peut pas te tromper si tu l'as autorisé à aller voir ailleurs. C'est comme sur les autoroutes allemandes. S'il n'y a pas de limitation de vitesse, ben, il n'y a pas d'excès de vitesse. Voilà. Aujourd'hui, on n'ose pas dire qu'on a été voir ailleurs parce qu'on sait que si on dit je t'ai trompé, c'est la peine de mort du couple. Mais si demain on sait que si on dit je t'ai trompé, on est corvée de vaisselle pendant un mois, deux, si on a mis la langue, bon, ben, on sera plus honnête. Voilà. C'est ça mon conseil pour les couples. Les gens qui trompaient, bon, arrêtez de mentir. Et les gens trompés, grandissez, quoi. Les relations humaines sont complexes. On n'est pas des dalmatiens. Tout n'est pas noir ou blanc. Sur ce, je vous laisse. Corvée vaisselle.
ce mois-ci et le mois prochain.
Merci. C'est la BO de la pièce de théâtre. Il y a cette reprise de Heart of Glass. Là, ce sont toutes les...
Les ballets.
Les ballets, exactement.
Les décors.
C'est un véritable labyrinthe dans lequel... comment il vous l'a raconté, Florian Zeller? Parce que c'est vrai qu'il cherche un peu à nous perdre. Et on se demande dans un premier temps qui est le plus... Parce que les cadres vont finir par mentir, sans spoiler la pièce. Ils se prennent au jeu, en tout cas. Et on est perdu dans ce qui est la vérité et ce qui est le mensonge. C'est le souhait de Florian Zeller, il vous l'a présenté comme ça, la pièce?
En fait, en termes de présentation, il y avait juste à lire la pièce. Et ce qui est assez... marrant dans ce genre de processus.
Vous êtes rencontré quand même ou pas avec Florian?
On sait, mais moi j'avais déjà travaillé pour lui.
Non, mais je parle pour cette pièce.
Oui, si oui. On s'était rencontrés.
Oui.
Non, j'avais reçu la pièce.
D'accord. Ok.
J'ai lu la pièce. Okay. J'ai beaucoup ri. J'ai compris la pièce en la lisant. Et au fur et à mesure après, en la répétant, je comprenais plus rien ce que je disais. Et on retrouve la saveur de la pièce.
C'est pour ça que je parle de labyrinthe et de se perdre pour
absolument
savoir où on en est, quoi.
Oui. Donc en fait, non, la pièce parlait d'elle-même. Après, bon, on a rencontré Florian tous, mais la pièce était tellement évidente et c'était tellement un cadeau, une gourmandise que de jouer ça que il y avait pas.
Parce qu'il a cité Voltaire dans une interview, Florian Zeller, en disant que Voltaire disait que le mensonge n'est un vice que quand il fait du mal. Ce qui est vraiment la question que l'on se pose. Faut-il dire
la vérité
ou mentir?
Ça dépend quel. C'est-à-dire que dire à quelqu'un qu'il est beau avec son pantalon, si ça lui fait plaisir, c'est une chose, mais...
On a dit qu'on parlait plus de Daniel Morin. On a dit.
Mais dire à sa femme qu'on la trompe pas alors qu'on la trompe, bon, bah, c'est pas un...
Mais ça part d'un élan de générosité.
Bien sûr.
Non, mais c'est pas une généralité. C'est-à-dire que vous avez un ami qui se fait tromper ou une amie qui est trompée. Est-ce qu'il faut dire à son ami ou à son amie qu'il y a un problème
Ce qui est une vraie question.
Bien sûr. Ouais.
C'est-à-dire, on risque d'ailleurs de faire exploser un couple. A-t-on la responsabilité ou pas pour protéger son ami I ou IE de lui dire la vérité ou au contraire de se dire.
C'est comme les enfants,
est-ce qu'on leur dit... Ça ne me regarde pas.
Bien sûr, et les enfants, quand ils sont petits, est-ce qu'on leur dit ou pas que le Père Noël, c'est une histoire particulière? Qu'il existe ou qu'il n'existe pas?
Il existe, ça on le sait, comme la petite souris, on sait que
oui,
ça existe.
Oui, bien sûr.
On sait, on sait. Mais vous... Bon, je ne sais pas si on en parle aujourd'hui. Jacques, est-ce que vous sentez en fonction des soirs des réactions différentes dans la mécanique du rire et des situations? Ou est-ce que tout le monde, d'un commun accord, entre guillemets, comme un seul...
Il y a des rendez-vous. Il y a des rendez-vous. Il y a des endroits où on sait que les gens vont vraiment rire à chaque fois, qui sont...
Il n'y a pas de parti pris, homme-femme?
On entend, on entend des petites réactions, quand même, des « oh ».
Hier dimanche, par exemple, c'était un
choqué.
Autre public,
ouais.
Et il commentait. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où j'hésite à dire quelque chose, et j'entendais une dame au troisième rang qui donnait la réponse à ma place.
Sympa.
Oui.
Ça s'appelle un souffleur. C'est-à-dire qu'il se mêle le quatrième mur n'existe pas quoi. Il se mêle de la situation.
Oui. Et donc ça veut dire qu'ils sont complètement à nous suivre dans toutes ces ramifications, ces rouages et ce.
Oui, mais ça veut dire que tout le monde a expérimenté quand même assez bien le mensonge parce qu'ils commandent très très rapidement.
On a un avis, ouais.
Voilà, c'est ça. Ils entrent immédiatement dans la logique du personnage de Stéphane.
Mais c'est vrai qu'après 4-5 représentations, déjà il y a des rendez-vous. On se rend compte qu'il y a des moments qui sont imparables.
Et vous êtes présenté comme le mentor professionnel dès le début de la pièce. C'est vous qui portez en tout cas le flambeau du mensonge dès le début.
Oui, et alors il y avait un truc compliqué pour moi, le comédien, c'est que je suis totalement fan de Pierre Arditi, et Florian a écrit cette pièce pour lui.
Ouais.
Et donc quand il m'a proposé le costume de ce personnage, sachant que ça avait été écrit pour Arditi, et qu'il a une voix, il a une manière de jouer...
Absolument, il a un
tout
tempo.
Début, de mes répétitions, j'avais un peu de difficulté à oublier la voix et la manière de faire de Pierre Arditi, qui est un merveilleux menteur. C'est un comédien extraordinaire qui a cette espèce d'ampleur. Et donc, j'ai dû faire un travail pour oublier complètement le jeu d'Arditi et d'être un autre menteur. Mais le menteur, il doit forcément être flamboyant. Il doit y avoir quelque chose dans le menteur. Donc, j'ai dû recomposer ce personnage, bien aidé par Sylvie et par Clotilde.
Et oui, parce que les femmes sont fortes aussi dans cette pièce. Il faut pas le négliger. Elles sont, contrairement à certaines scènes de votre ville, entre guillemets, où elles ne sont que la maîtresse et que l'épouse, ouais, l'accessoire de la situation, là, elles sont moteurs aussi de la comédie.
Oui, elles sont moteurs de la comédie, elles se posent des questions même par rapport à leur propre loyauté à elles-mêmes. Et en fait, tout à l'heure, vous avez dit, on est perdu, on se perd. En fait, ça, c'est le principe du mensonge. Il faut être brillant pour y faire croire, mais il faut quelque part aussi être brillant pour tenir le mensonge sur la longueur. Et pour tenir face à quelqu'un qui maîtrise peut-être moins bien, mais malgré tout, le mensonge aussi. Et donc ça fait un dialogue qui pour lui, en fait, est une joute intellectuelle presque.
Il faut être très psychologue pour bien mentir, et ça dépend de la personne qu'on a en face de soi pour mentir d'une certaine manière. On s'adapte en fonction de la personne, on adapte son mensonge.
On sent le professionnel, hein. on sent qu'il a bossé le dos.
Son personnage est émouvant parce que c'est assez beau, quelqu'un qui essaye et qui rate
oui,
par un moment.
Oui, finalement c'est peut-être lui le plus mauvais menteur de la bande.
Non, c'est pas le plus mauvais, je crois que c'est celui qui sous-estime le plus les autres.
C'est ça, absolument.
Exactement.
C'est là où il est pas bon psychologiquement.
T'as raison. Exactement.
Extrêmement bien écrit par Florian Zeller, ça s'appelle tout simplement La vérité. Tout est dit dans le titre, au théâtre Édouard VII, jusqu'à plus soif. Il n'y a pas de date de fin en tout cas, mais c'est un carton annoncé, à vous d'en profiter.
Alors quand on le dit, c'est vrai, c'est pas pour faire de la promo à deux balles, mais c'est hallucinant les réservations. C'est un succès de fou. Quoi.
J'ai été surpris que vous veniez quand même dans cette émission pour dire.
Si on doit en faire qu'une, ça serait celle-ci.
Oh, un menteur, tu l'as déjà faite, l'autre.
C'est complet. Tu sais que je l'ai déjà fait, j'adore moi être ici.
Voici mes bienvenus, voici bien Mélodie Fontaine.
Ah, bravo, je ne m'attendais pas du tout. Salut les Zozo.
Salut, bonjour.
Je vous avais dit que j'avais acheté une bicyclette?
Non.
Si, je me souviens, vous étiez là exactement à la même place.
Ah oui.
C'est dingue ça d'ailleurs, vous changez jamais de place. C'est le banquet d'Astérix ici. Même si normalement le barde est attaché. Oui, donc ça y est, je fais du vélo à Paris. Oh là là, ville de l'amour, ville aux mille visages, ville lumière d'ailleurs. Je comprends maintenant pourquoi on l'appelle comme ça. En traçant sur les pistes cyclables, tu frôles la mort tellement souvent que tu la vois régulièrement, la lumière. Celle qui est au bout du tunnel. Ne la suis pas, c'est un SUV. Ah, on avait omis ce détail, mais en fait, il n'y a pas de code de la route à vélo. Non. En fait, c'est comme en prison. Si tu respectes pas le code, tu joues ta vie. Si tu le respectes, personne te respecte. Après, bon, j'adore l'anarchie et le chaos, hein, tant que c'est bien ordonné et qu'on parle bavarois. Mais là, c'est n'importe quoi. Ça coupe la route, ça monte sur le trottoir, ça fonce n'importe comment. On dirait une femme au volant. Alors, elle est pas de moi, elle est de Jean-Baptiste Bussière. Vous pouvez envoyer toutes vos réclamations au bureau. Mais ça, je le supporterais si eux n'étaient pas là. Eux, vous voyez qui c'est? Eux, c'est les doubleurs. Oui, ceux qui veulent aller plus vite que les autres. Hein, ils n'ont sans doute pas plus d'urgence que toi. Ils ont juste passé un sale moment avant d'enfourcher leur bolide, j'imagine, provoquant une réaction en chaîne. De vélo, en chaîne de vélo. Du style se faire renverser un café brûlant sur les parties, prendre les pieds dans une latte de plancher avant de perdre 3 dents sur le bord de la baignoire où ils voulaient éteindre le feu qui leur consume les roubignoles. J'imagine que c'est pour cette raison-là. Eux, je leur mettrais des balayettes, mais alors, profond, hein. Je parle bien du petit balai avec les petits poils. Et s'il reste de la plage, j'ajouterai le ramasse-poussière, bien sûr. On est d'accord que ça marche pas d'ailleurs, les ramasse-poussières. Enfin, ce serait une autre chronique, ça. Les doubleurs, en plus, il se retrouve 10 secondes plus tard devant toi au feu rouge. Au feu rouge. Oui, c'est comme ça que je fais semblant de rire. Au feu rouge. Je râle, mais faire du vélo à Paris a quelque chose de vivifiant. Faut se battre pour trouver sa place. Hein, être un loup parmi les chiens, mériter sa couche près du chef de meute, puiser dans ce qu'on a de plus sauvage, se transformer en bête, montrer les dents, faire ses besoins sur le trottoir, se renifler le troulala. Non, et puis en plus, c'est pas mal pour l'exercice. Pour la santé aussi. Le vélo, c'est bien pour entretenir le physique. Hein, Lisa en parlait tout à l'heure, c'est qu'il faut raffermir un peu ce petit corps tout flasque. Les mollets de poulet, les abdos qui sont encore en vie là-dessous. Il y a quelqu'un là-dessous? On arrive, on va venir vous chercher. Et le cucu surtout, hein, le petit boubou, le coussin de chair. Alors moi, c'est plus un popotin, c'est un pli de dos. Oui. Je me suis regardée dans le miroir, c'était une arme de séduction massive, c'est devenu une bombe atomique. Hein. Mes fesses commencent à ressembler à du flamby. Mais alors, faut voir la tronche de la languette. Je peux vous assurer que pour démouler, c'est moins rigolo. Me dégoûte. Juste un aspect vraiment pénible, c'est quand il pleut. Ah, ça, c'est pas cool. T'es obligé de te saper avec des fringues, mon con poncho en plastoc de la tête aux pieds, le truc vole au vent comme un manchère. Ah, on dirait que t'es sponsor par Durex. T'as le look du tueur de Scream, mais sans le sourire, t'sais. Et cette circonstance que ça ressemble à un tueur, parce que vu le comportement sur la route, c'est la panoplie, douane. Bon, je file, je pars un peu en avance, rapport au bouchon.
Merci. Vous êtes bien dans la bande originale et encore mieux après Philippe Catherine Dormir en cuillère. Non, Daniel, rhabille-toi. Dormir en cuillère.
Dormir en cuillère avec toi, me réveiller, j'ai un peu froid. Je te fais un café long, la radio, les chansons. Tiens, le PSG gagne au Barça, le climat c'est n'importe quoi. Dire que je suis comme tous ces cons qui peuvent pas changer de direction. Enfant arrive en criant, mais il crie en se marrant. Non, je suis pas sûr qu'il soit plus adapté. Moi je ne l'ai jamais été. Je suis habillé pour l'hiver. Zouzou aussi veut prendre l'air. Je te crie, j'y vais chérie. Tu dis oui en montrant ton derrière. Téléphoner à Eddy. Zouzou court après la perdrix. Les nuages se dégagent. Laisse le soleil sur le bocage. Dormir en cuillère avec toi. Se promener dans les sous-bois. Lancer loin une pomme de pain. Comme ça, pour rien. On fait toujours la même chose, mais c'est toujours différent. Il n'y a jamais de pause. Le temps avance. C'est stop, éjecte, définitivement.
De Philippe Catherine, vous êtes bien dans la bande originale, celle de Sylvie Testu et Stéphane Degout.
Ah, position des cuillères, et c'est reparti dans le dégueu, et on y va, s'il vous plaît, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même, je vous en prie, merci madame, et bonne journée.
Beaucoup de musique dans cette pièce que vous interprétez au théâtre Édouard VII, La Vérité, signée Florian Zeller. Dès que vous écoutez la musique, vous revoyez le moment où ça se passe.
Complètement.
Ah bah oui.
Mais c'est toute la playlist. J'ai reçu des messages sur Instagram de gens qui me demandaient
quel était le titre,
la référence de la playlist, parce qu'ils adoraient.
Il y a cette version qui est vachement bien. Toxique. Métronomie également. On va recevoir tout à l'heure Joseph Agostini, psychologue clinicien, qui a parlé, écrit même sur les mensonges. On en parle dans quelques instants avec lui, mais de la musique dans vos vies, est-ce que cela évoque également comme moment de votre vie? On va commencer par vous, Sylvie Testu. On est en 1900, au milieu des années 90, on va dire. Et là aussi, en écoutant cette musique, vous voyez à ce moment-là.
Ah oui, de toute façon, je suis une fan, moi, de Mylène Farmer. Et je faisais beaucoup la fête à l'époque. Et cette chanson, elle nous prévient. Attention, dans 5 minutes, va falloir se lever. Dans 5 minutes, ça arrive. Attention, c'est dans 30 secondes. Et Et j'adore ça. Elle fédère cette chanson, non?
Ah ouais.
Il n'y a personne qui reste assis quand il y a ça pendant une soirée.
Et sourde. Elle est sourde, la personne qui fait ça. Il se passait quoi dans la vie, Leïla?
Les piercings, c'est le premier film.
C'est ça.
Le premier film allemand, donc avec ce pari. c'était quoi l'histoire du film? Vous vous souvenez déjà?
Oui, bien sûr. C'était une jeune fille qui veut jouer de la clarinette et ses parents sont sourds.
Ah, ça, mais ça c'était.
Beyond the Silence.
Oui, ça c'était le film de Caroline Link. Oui,
exactement.
Et je pensais que c'était celui de Nico Bruscher, moi, votre.
Ah, bah alors, je me. Non. Ah, déjà?
Ah ouais?
Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Et bah alors, c'est Mary Slide. Alors, c'est. Ça se passe pendant la période. Je confonds tout. Pendant la période napoléonienne. Et en fait, moi je fais une jeune. Comtesse,
ouais.
Qui est dans un milieu où bah, il va lui arriver malheur, évidemment.
Mais vous parliez allemand?
J'ai appris, en fait. Non, pendant cette période, en fait.
Avec les piercings, c'était pas facile.
Ah, bah, d'un âme français. Purée, non, mais c'était une alu, quoi. C'était n'importe quoi, n'importe quoi. Bon, on me l'a retiré, hein, évidemment, parce que sinon je pouvais plus parler. C'était affreux. Bref. Et donc, en fait, pendant la période napoléonienne, ah, je vais finir, on pouvait parler. Il était de bon ton de parler russe, allemand et français indépendamment.
D'accord.
Donc, les Allemands parlaient allemand, il y avait des Russes et puis moi qui étais là. Ensuite, j'ai appris l'allemand. J'ai fait plusieurs films.
Ouais, vous dites que l'Allemagne vous a vraiment ouvert les portes et vous a permis de découvrir que.
Ah, bah, j'allais m'acheter un appartement à Berlin quand on m'a proposé de tourner Carnaval.
Ouais.
Oh, moi, je me dis.
Ville extrêmement branchée, en avance dans plein de domaines.
Ouais, dans plein de domaines. La photo, la musique.
Absolument.
Ouais. Et d'ailleurs, moi, le truc qui me choquait le plus, c'est qu'un jour, on m'a emmené dans une boîte de nuit, il y avait des tags partout. J'étais terrorisée, j'avais peur. Et en fait, des mecs complètement tatoués qui m'ouvrent la porte, très gentils. J'ai dit, mais nous, quand c'est comme ça, il faut te casser en courant. C'est pas du tout les mêmes codes, quoi.
On est avec Stéphane de Groot dans ces années 90. Vous écoutiez Shiny O'Connor.
Et on vous retrouve sur la chaîne Event TV à cette époque-là.
Oui, en fait, moi je me cherchais un peu à l'époque, donc j'ai fait 42 métiers différents. Et il y a un journaliste qui me croisait de temps en temps sur les circuits.
Vous étiez pilote, hein,
à l'époque, j'étais pilote. Ouais. Et il était journaliste, il montait une chaîne de télé.
Patrick Perret.
Exactement, chaîne événementielle. Et il m'a dit est-ce que tu veux pas devenir animateur d'un talk show qui s'appellerait Le Loft ? Comme quoi, on n'invente rien. Et qui n'avait rien à voir avec ce qu'on a connu par après.
Mais c'était, oui, c'était bien avant le.
Bien avant.
Ouais, c'est ça,
c'était un talk show quotidien. Et donc, j'ai commencé à animer une émission tous les jours, pendant 2 heures, en direct. Et ça m'a beaucoup amusé. Et c'était mes premiers pas devant une caméra et à essayer d'appréhender un plateau, des invités, une caméra. Je me suis beaucoup amusé en faisant ça.
En 2000-2001, Sylvie Testu, vous écoutiez. Que vous écoutez, elle est faite pour danser?
Alors, vous savez quoi? J'écoute beaucoup de soul music, je suis dit, avenue, on en a. Et là, j'ai regardé vraiment les dates et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est sorti à ce moment-là? Et Shola Ama, mais je l'adore! Au volant de ma voiture.
Ou dans sa loge.
Vous êtes une chanteuse de voiture?
Et de loge.
Dans ma cuisine.
Ah, d'accord.
Et de loge aussi.
Ah, et de loge.
Là, on est avec deux loges, on met la musique à donf. Alors, Sylvie a sa playlist et j'ai la mienne.
Oh, voilà, c'est ça.
Et on vous retrouve avec un César dans les mains. César du meilleur espoir féminin pour les blessures assassines de Jean-Pierre Denis. Est-ce que vous avez un souvenir précis de la soirée qui a suivi cette remise de prix?
Mais tellement. Mais tellement. J'avais oublié mon sac, en fait, dans les étages. Et donc, je laisse du théâtre où on remettait le César. Je laisse donc mon César à mon copain. Je monte. Et quand je redescends, bah, tous les photographes le prenaient en photo. Ils s'en foutaient de moi. C'était une bonne musique. Donc, en fait.
Même les photographes ne savaient pas qui était le mec avec le César, quoi.
Ah, ils s'en foutaient. Il le photographiait. En plus, j'étais beau gosse. Alors, il était là avec son César. C'était énorme.
La vraie question, après, c'est avez-vous retrouvé votre sac? Parce qu'on sait que c'est un milieu où on se pique.
Oh, j'imagine, je sais pas.
De toute façon,
il était prêté, je vous le dis.
La vraie question, c'est ça.
La vraie question, c'est de vous rester avec ce garçon.
La manière dont on en a parlé, non. Elle n'est pas restée avec.
Bref, et donc.
dans les années 2000-2001, Stéphane de Groot, vous écoutiez. Back to Black, Amy Winehouse et Leïla dans la vie de Stéphane.
Eh bien Stéphane, vous arrêtez je crois la course automobile à peu près à cette période-là pour vous consacrer vraiment à la télévision et vous tenez une chronique dans l'émission Les Allumés sur la RTBF.
Oui, c'est la première fois que je fais une chronique télé et j'arrive avec mon univers différent, on va dire. Et je me souviens à l'époque, la productrice virait toutes mes chroniques ou tout ce que je pouvais faire parce qu'elle comprenait rien à ce que je faisais.
Est-ce que c'était déjà du de gros, c'est-à-dire votre patte de jouer un peu comme Raymond DeVos sur les mots, les formules?
Alors je savais pas ce que c'était que du de gros ou quoi que ce soit. Je faisais mon truc.
Mais Raymond DeVos, oui.
Oui, mais alors même moi, adolescent, je comprenais pas bien ce qu'il faisait Raymond DeVos. C'est bien plus tard que j'ai compris, j'ai apprécié cet univers différent et que je comprenais que dans cet absurde, il y avait une logique implacable et que l'absurde était tout sauf n'importe quoi mais très logique
et c'était donc déjà absurde ce que vous faisiez au point où la productrice ne comprenait pas.
Exactement. Mais je pouvais pas faire autre chose, c'était mon univers, c'était pas une posture et donc je comprenais pas qu'on me comprenne pas. Et puis c'est pour les mêmes raisons que bien plus tard ça a fonctionné.
Et comment on tient quand on est coupé au montage? C'est violent quand même d'avoir sa chronique virée.
Mais j'avais déjà l'habitude quand j'étais plus petit à l'école, adolescent, j'avais l'impression en permanence d'être incompris, de dire des trucs et les gens comprenaient pas et je m'évertuais à dire ce que je pensais, à expliquer la manière dont je voyais les choses, et ce n'est que bien plus tard que je me suis rendu compte que c'était ma manière de voir les choses, que je devais l'assumer, et que c'était non pas une tare, un défaut, mais que ça pouvait être un plus dans la vie. Et il se trouve qu'à force de s'accrocher à cette singularité, ça m'a rendu pluriel.
Et à cette époque-là, vous tournez votre premier film aussi, Mauvais Genre.
Oui, avec Richard Bohringer, et c'est justement le réalisateur qui m'avait vu dans une animation télé, qui m'a fait passer un casting, et c'est là où j'ai fait mon premier film au cinéma.
Jamais avant, vous imaginez être acteur ?
Je rêvais d'être acteur, je rêvais d'être pilote, je rêvais d'être astronaute, j'étais empli de mille rêves, et j'ai eu cette chance de pouvoir les réaliser. Et d'ailleurs, juste pour faire court...
Astronaute ? Non. Astronaute aussi ?
Oh, ça va pas tarder.
Avec Elon Musk, ça doit être possible.
Non, et alors cette époque-là, justement, je venais de terminer ma carrière en faisant les 24 heures de Spa, et 15 jours plus tard, j'allais faire mon premier film, Mauvais Genre. Oui. Mauvais Genre a été réalisé par un réalisateur qui avait fait tourner Jean-Louis Trintignant. Et Jean-Louis Trintignant avait fait les 24 heures de Francorchamps, de Spa Francorchamps. Et entre les deux, je vois que Jean-Louis Trintignant joue au théâtre à Paris. Donc moi, Trintignant qui m'a fait rêver en me disant donc on peut être pilote de course et comédien. Donc ça a été un modèle pour moi. Je vais le rencontrer au théâtre, j'arrive dans sa loge, je frappe à sa porte et je dis voilà, c'était merveilleux votre pièce, oui super. Je dis je vais tourner un film avec un réalisateur qui vous a fait tourner, oui super. Et là je viens de faire les 24 heures de Spa. Et là il y a ses yeux qui s'illuminent, il me fait rentrer dans sa loge et on a parlé pendant 50 minutes.
Donc tout le
de
reste,
voiture.
Tout le reste de métier d'acteur, ils sont moqués, mais de la voiture, oui.
Oui c'est ça, et on a passé trois quarts d'heure à parler de bagnole.
2008-2009, Sylvie Testu, vous écoutiez Jazz on Raz. Ça c'est cool ça. No more, no more, it cannot wait, I'm yours. On a envie de boire un coup sur une plage,
ouais,
tranquille.
Exactement.
Feu de bois.
On se sent léger, fait beau absolument tout ça. De suite dès qu'on met cette musique.
Jason Mraz, en 2008-2009, Leïla, que se passait-il pour Sylvie ?
Mais Johnny Hallyday. Pour Sylvie Testu, absolument.
Non, Johnny Testu, donc.
C'est Johnny Testu, à l'affiche de Vengeance, film d'action réalisé par un cinéaste hongkongais, Johnny To. Et rencontre avec Johnny Hallyday, de Johnny, quoi.
Oui, c'est ça. Mais moi, j'étais très impressionnée. Et en fait, c'est vraiment le truc des grands, quoi. C'est-à-dire que j'arrive à l'hôtel et puis mon téléphone sonne dans la chambre. Et c'est Johnny qui dit, on va dîner ce soir.
De quel Johnny ?
Hallyday. Oui. On va dîner ce soir et...
Soyez précise, si on comprend plus rien.
Ouais, pardon, ouais, il y avait deux Johnny. Bon, alors, Hallyday. Et en fait, il était tellement sympa, c'est-à-dire que... vous avez l'impression que c'est lui qui est content de vous voir.
Oui.
Mais je disais, mais non, c'est le contraire, en fait. C'est moi qui suis impressionnée par toi. Et on s'est entendu super bien. Et je crois d'ailleurs, il adorait dire, Sylvie, je dis, mais tu sais, je suis pas partant, moi, en fait.
Ah oui, j'avais pas pensé à ça.
Il adorait.
Vous écoutiez Stéphane de Groot à ce moment-là, vous, Coldplay. Et de quoi était faite la vida, Leïla, à ce moment-là, de Stéphane ?
Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques.
Oui, je me retrouve dans une espèce de super production hallucinante. On tourne à Barcelone. J'avais l'impression d'être dans le hall d'hôtel le matin quand on partait tourner. J'avais l'impression d'être à la remise des Césars, tellement il y avait une distribution hallucinante de gens dans tous les coins. Et j'ai eu une chance assez inouïe, c'est que je jouais un druide avec Jean-Pierre Cassel. Et donc on attendait des journées entières que tout se prépare. Et j'étais à côté de... C'était 6 mois avant sa mort.
Donc vous avez la recette de la potion magique.
Donc j'ai effectivement la recette de la potion magique.
Ça commence à m'intéresser.
C'est merveilleux cette rencontre, et comme quoi le cinéma nous amène certes 1000 choses dans le jeu d'acteurs, mais aussi des rencontres inoubliables. Et celle-là en
formidable
est une.
Monsieur, tellement élégant, tellement classe.
Mais de cette génération qu'on aime tant, comme Mastroianni, comme des gens avec une générosité, une simplicité et une élégance rare. Je voulais juste vous dire que le film dont je parlais tout à l'heure avec Francis et Jean-Louis Trintignant, c'est Francis Giraud qui avait fait Le Bon Plaisir, et le film avec Boringer, et qui était un réalisateur que j'aimais tendrement.
Joseph Agostini nous a rejoint, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicien, vous avez publié La traversée des mensonges aux éditions En Volume. On parlait tout à l'heure de la nuance entre ne pas dire la vérité et... Enfin, protéger en ne disant pas la vérité et mentir. C'est une arme ou c'est une protection en fait, le mensonge pour vous?
Je dirais qu'on déteste tous en tant qu'être humain la dissonance. Et quand on ne correspond pas à l'image qu'on veut donner, alors c'est catastrophique. On ne le supporte pas et on préfère esquiver et mentir plutôt que dire la vérité. Et c'est le drame d'ailleurs, parce que la plupart du temps, dès qu'on n'est plus dans le référentiel qu'on a envie de donner, qu'on a envie de montrer, on peut se détourner de la vérité très facilement au fond. Parce que l'important, c'est l'image qu'on doit sauvegarder à tout prix.
Mais est-ce que ça serait possible de vivre sans mentir?
Non.
Il y a un film qui s'appelle Liar Liar, je crois, de mémoire avec Jim Carrey,
ouais, tout à fait.
Où sa vie est infernale parce qu'il ne peut pas se retenir de dire la vérité. Alors, c'est une comédie, évidemment, c'est poussé à l'extrême, pardon.
Il y a même une série de Tom Villa qui était ici, qui s'appelait Sans mensonge.
Oui, sans mensonge.
La chance de participer.
Est-ce que ça serait possible, alors, Joseph?
Non, je crois que ça. Et d'ailleurs, c'est pas souhaitable, parce qu'au fond, on a envie de conserver. Les liens qu'on a aux autres sont aussi basés sur une forme de narcissisme. Parce qu'on veut plaire à l'autre, et on a besoin aussi que l'autre nous plaise. C'est-à-dire que, vous entendez d'ailleurs, dans mon cabinet, j'ai souvent des couples qui disent je préfère ne pas le savoir si bon d'ailleurs c'est la pièce
s'il me trompe ou si elle me trompe,
c'est bien dit. Si tu as quelque chose qui va complètement ruiner ton image, et si cette chose là n'est pas essentielle à ton fonctionnement, à ce que je connais de toi, alors je préfère ne pas le savoir.
Donc il y a des personnes qui disent
besoin d'une part secrète,
donc ils disent ne me dis pas la vérité si tu me trompes, quoi. Enfin, c'est ça.
Oui, disons qu'on respecte le secret de l'autre dans la mesure où il n'envahit pas tout. Moi je dirais que quand il envahit tout, quand les bases narcissiques sont vraiment fondées sur le mensonge, c'est la mythomanie, on a le cas évidemment de Jean-Claude Roman en France, vous vous souvenez de ce faux médecin, toute sa vie était basée sur un mensonge, alors c'est insupportable.
Mais ils sont même malheureux, non, les menteurs, j'imagine, parce qu'ils se perdent dans leur mensonge.
Exactement.
Et personne ne les croit, même si ils ont...
Et les autres aussi, ceux qui disent très mal la vérité, ils sont malheureux.
Vous savez,
mais ça ne dure pas longtemps, alors que les menteurs invétérés qui mentent du matin au soir, à mon avis, ils sont seuls, quoi.
Mais Nagui, c'est comme gagner au casino. C'est-à-dire, quand on se rend compte que le mensonge marche, à ce moment-là, il y a un bénéfice secondaire à continuer. Quelque part, si on ment et si ça marche, si on est très convaincant, c'est très difficile de s'arrêter. Au fond, ce qui arrête le menteur, c'est quand il se retrouve tout nu face aux autres. C'est-à-dire quand il peut pas, quand il a plus d'arguments. Alors à ce moment-là, il peut faire marche arrière, il peut travailler sur lui. Mais un menteur qui serait dans un tel semblant que tous les autres seraient convaincus, c'est la vanité de puissance. En politique, on le sait très bien.
Et comment s'appellent les menteurs qui sont convaincus de leur mensonge, c'est-à-dire qu'ils sont persuadés
de croire. Bon,
ouais, c'est ça, c'est un bon menteur. Mais qui sont
qui s'inventent
une histoire et qui mordicusent sous la torture en disant non, mais c'est vraiment ce que je te dis.
C'est la mythomanie, c'est la paranoïa finalement, c'est croire en son délire, quoi. C'est vouloir à tout prix. Alors ça, c'est un mécanisme de défense beaucoup plus massif dans la vie psychique. Quand on a à court à ce mécanisme-là, c'est qu'on peut s'effondrer si d'un coup on nous dit la vérité en face. Mais la paranoïa, c'est ça.
Est-ce que la mythomanie, c'est pas pour s'élever absolument au-dessus de tout le monde? Est-ce que
se donner de l'importance?
Oui, c'est ça, parce que si on est persuadé d'un mensonge sans que ça nous valorise particulièrement, c'est pas de la mythomanie.
Non, moi je dirais que le mythomane, c'est vraiment un petit oiseau déplumé derrière, quoi. Il faut vraiment être se sentir minuscule et très faible,
ou qui veut se faire
se mettre à mentir tout le temps. Il faut vraiment avoir une image de soi tellement détériorée qu'on a toujours besoin d'en passer par le mensonge pour exister.
Dans la traversée des mensonges, quelle est, vous, votre perception, votre regard, que le mensonge est quand même l'un des mots du siècle, entre les fake news, intelligence artificielle qui trafique, on ne sait plus qui dit quoi, qui chante quoi, quelle est la vraie, la fausse information. Alors, moi, Parce qu'il y a des mensonges qui sont à niveau mondial.
Mais moi, la traversée des mensonges, je l'ai écrit juste après la mort de mon père, dans un voyage. J'étais dans un avion, je partais en Inde et j'ai eu envie d'écrire autour de ce que j'aurais pu lui dire si je n'avais pas été menteur quelque part. Parce que je l'ai beaucoup préservé, mon papa. J'ai fait en sorte de ne pas lui dire, de ne pas lui parler de moi, d'être vraiment dans un rapport un peu biaisé. Et quand les gens meurent, on se rend compte que la vérité est importante et qu'on est passé toujours, finalement, on passe toujours à côté d'une forme d'authenticité pour préserver l'autre. C'est ce que
vous avez voulu le protéger.
Oui, c'est ça. Il y avait une forme comme ça de pudeur, peut-être. Je suis d'origine corse. Il y a cette.
C'est une menace que vous me faites.
C'est ça que vous vouliez pas dire, votre père.
C'est ça, exactement. Mais en Méditerranée, voilà, il y a une omerta aussi. Et on est très pudique. Et finalement, la différence entre la pudeur et le mensonge, parfois, elle est assez mince.
Elle est fragile. La traversée des mensonges aux éditions en volume. Merci, Joseph.
Mais j'ai une question, moi, par rapport à votre cabinet, les gens que vous voyez,
Non, je vous écoute.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression que plus le temps passe, plus les gens ont tendance à virer les filtres et de dire la vérité?
Bah, je pense qu'on est défiltré au fur et à mesure, parce qu'on a moins à perdre, finalement. Quand on construit sa vie...
Ça le travaille, en tout cas.
Ouais, c'est ça, c'est pour vous, Stéphane.
En fait, il ne joue pas la vérité, il est en psychanalyse au théâtre Édouard VII. Merci beaucoup, Joseph. Voici Tom Baldetti.
Merci, je suis très content d'être là. Je suis content parce que ma grand-mère, elle passe ses journées à écouter France Inter et je l'appelle jamais assez souvent. Donc c'est à elle que je vais m'adresser si ça vous dérange pas. Mamie, je suis sur France Inter. Voilà, et c'est dans le 16e, je savais pas. C'est très dépaysant. Moi, j'habite au fin fond du 18e, élevé au club roulé au bière à pied, j'ai l'impression de faire rendez-vous en arrondissement inconnu. Ici, les autochtones repassent leurs vêtements, trop bizarre là. Je suis très content de vous présenter ma grand-mère aussi. Ma grand-mère, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Elle est aussi à gauche qu'une priorité dans le code de la route britannique, quoi. C'est une parisienne 68arde qui s'est installée en Ariège dans les années 70 au sein d'une communauté hippie dont mon grand-père était un peu le gourou, quoi. Autant vous dire que pour ma grand-mère, même Zaz, elle tend un peu trop à droite. Bon, la communauté, elle n'existe plus, hein. Beaucoup sont morts de carences alimentaires parce que, je cite, le LSD au petit-déj, c'est pas nourrissant.
Soi-disant.
Mamie, je me permets de te présenter l'équipe. Je peux pas passer par tout le monde. Vous êtes trop. Ce sera Nagui aujourd'hui. Bonjour. Nagui, vous le savez peut-être pas, mais c'est la deuxième fois qu'on se croise.
Mais non.
Ouais, parce qu'il y a 15 ans, mon père a fait Tout le monde veut prendre sa place. Et c'est trop marrant parce que la prod avait demandé à mon père de prendre 5 tenues au cas où il gagne. Les fringues sont encore dans la bagnole. On a fait l'aller-retour en 24 heures. On pensait revenir riche. On est revenu fatigué. On venait d'hyper loin à l'époque. Moi, je viens du sud-ouest de la France, d'une petite ville. Bah, je vous propose de deviner la ville d'où on venait.
Alors, sud-ouest.
Ouais, du Haut, Carré ou Castres. Mamie, j'ai fait un. Voilà, je demande sur France Inter, c'est pas de Vos, mais c'est pas mal quand même. Elle est géniale, ma grand-mère, c'est la personne la plus ouverte d'esprit que je connaisse. Les vieux ouverts d'esprit, c'est aussi rare qu'un joueur de foot professionnel au Girondin de Bordeaux. Je suis de Toulouse, désolé, petit tir. Elle déteste les inégalités, ça se ressent même à Noël. C'est-à-dire que tous ses petits-fils, on a le même pull trop moche. Trop grand. Oversize. Moi, j'adore Noël. Je sais pas si vous avez passé de belles fêtes. J'ai beaucoup ri cette année parce que mes cousins sont hilarants. J'ai énormément de tout petits cousins, quoi. Et leurs parents, ils ont des revenus très variés. Ça va du chômeur au pharmacien. Du coup, les cadeaux, c'est pas les mêmes. Et tous les petits croient encore au Père Noël, quoi. La confusion dans leurs yeux, elle est extraordinaire. La tête du petit plus pauvre en train de se dire, mais attends, j'ai été sage toute l'année, moi, je comprends pas. Hein. Père Noël serait pas un enfoiré, quand même, par hasard. Son père derrière, ouais, enfoiré le Père Noël. Moi, j'ai hâte du premier Noël où il y aura un des petits cousins un peu plus âgés que les autres. Il saura que le Père Noël, il n'existe pas. Je pense qu'il faudra qu'il garde le secret par respect pour les autres. Il sera un petit peu tendu. Il y aura peut-être des messages un peu subliminaux quand il ouvrira les cadeaux, quoi. Ça serait bien qu'il trouve un taf, le Papa Noël. Donc, mamie, je te fais un bisou. J'ai pas encore réussi à revendre sur Vinted ton cadeau, mais on est en bonne voie. Si vous pouvez me reprogrammer juste une fois, histoire que je tienne au courant, quoi. Ouais, ça s'entretient, ce genre de relation. Je vous remercie beaucoup d'avoir
écouté. Comme ça, merci.
Tanguy Pastureau, de quoi allons-nous parler tout à l'heure?
Je vous parlais de Zao de Sagazan, super chanteuse, tout le monde l'adore, sauf que dans Libération, le titre d'un article sur moi laisse entendre que je la déteste. Alors je suis mortifié, enfin, parce que moi je suis bien fait.
C'est vrai?
Restez avec nous jusqu'à 12h30.
Le meilleur de la bande originale, oui. C'est reparti avec nos invités du jour, Leïla. Oh.
Sylvie Testu et Stéphane de Groot.
Les menteurs.
En plein naufrage, le théâtre français en pleine déroute, je vous le dis, je déteste.
Une comédie sur le mensonge qui s'appelle donc La Vérité, qui raconte l'histoire de Vincent qui a peur, qui trouve beaucoup d'inconvénients finalement à dire la vérité. En fait, c'est ça son problème. C'est pas qu'il trompe ou pas, c'est qu'il voit tout le mauvais côté. Tout le mauvais. Mais il faut être deux hein, pour tromper.
Mais il voit pas de problème, lui. Lui, il a envie de
prendre son
plaisir.
Si, il voit un problème à dire la vérité.
Oui, mais il a pas de problème à c'est pas très moral ce qu'il fait. Mais voilà, c'est un jouisseur.
En fait, il attend la vérité.
Il ne ment pas, mais il tait la vérité. C'est cette nuance-là qui est le point de départ.
Il est de mauvaise foi.
Voilà. Oui, ça c'est sûr. Ça pour tout. Pour tout, y compris d'ailleurs quand elle lui dit « Ce que je veux, c'est passer un week-end avec toi, parce que tu... » Là, c'est un cassette selon l'expression traditionnelle, mais tu fais croire que tu as une réunion et on va à l'hôtel. J'en ai marre d'être traité comme ça. Je veux rester... Elle est très romantique. Elle veut se coller à lui.
Elle met du sentiment, bien sûr. Et c'est-à-dire, elle est en train de lui avouer qu'elle voudrait plus que, en fait, un exercice physique, je sais pas comment le dire mieux.
Être un one-shot
Et elle a pas envie de ça.
Friend,
Et dans un deuxième temps, elle a aussi de la culpabilité, quoi. Elle se dit, en fait, je trompe mon mari pour quelque chose, une relation qui n'en vaut pas la peine, finalement.
Et là où il est vraiment pas cool, tu ne peux pas faire ça à ton mari, il est au chômage, il vient de se faire virer, ça va pas fort, c'est mon meilleur ami, tu ne peux pas faire ça à mon meilleur ami.
Il lui explique surtout qu'en lui disant la vérité, en gros, c'est un peu tu l'as pris pour un con et maintenant tu veux lui dire.
Ouais.
C'est ça, en fait, il l'a fait culpabiliser deux fois, quoi.
Et lorsqu'il l'est lui-même, à ce moment-là, pris dans le mensonge d'un autre personnage de la troupe, à vous de découvrir en allant voir la pièce, il a cette mauvaise foi de dire, mais c'est impossible que cette personne me fasse ça à moi. On m'a menti.
Mais c'est pour ça que le texte de Florian Zeller est super bien, parce qu'en fait, il est un tombeur et il mérite d'avoir plusieurs femmes et il mérite de se comporter un peu comme un Hidalgo.
Avez-vous déjà menti pour avoir un rôle, Sylvie?
Oh, j'imagine qu'on m'a demandé... d'ailleurs, j'ai un exemple très précis. Je me souviens très bien d'être arrivé à un casting, j'ai pas donné le nom du réalisateur, qui m'a dit « T'as déjà volé ?» Je sentais que le rôle, c'était une voleuse qui avait vécu dans une cave, enfin bon, bref. « Ouais. Et t'as déjà fait ça ?»« Ouais, j'avais tout fait, quoi.
Oui. » Pour avoir le rôle, et vous l'avez eu ?
Non, parce qu'à un moment, il m'a posé une question un peu... « Et t'as déjà fait l'amour avec plusieurs ?» Je me suis dit « Ça m'a pensé. »
J'aimerais faire l'amour avec
ça
moi.
Oui,
ça déjà joué gratos.
Ouais, voilà. T'as déjà joué toute seule dans une chambre.
Et vous, Stéphane, vous avez menti pour avoir un rôle?
Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a un réalisateur anglais qui m'a proposé un rôle. Et donc, mon agent m'a dit, tu parles anglais? J'ai dit, mais of course, je parle anglais.
Ah, non, ça,
et donc, je me suis retrouvé sur le tournage avec Christine Scott-Thomas. Et donc, j'avais appris phonétiquement...
Comment ça, ils ne se rendent pas compte avant que vous ne parlez pas anglais, vous vous retrouvez sur le tournage?
J'ai rencontré le réalisateur.
Wow.
J'ai quand même des bases. Je connais et maybe. On n'était carrément pas dans du fluent. Parce que je m'étais dit, donc, il va me dire, voilà, comment allez-vous? Bien. Enfin, j'avais fait tout
les
un parcours.
Ouais.
Et puis, à la fin de l'entretien, il est sorti des questions traditionnelles, donc là je comprenais rien. Ouais. J'ai prétexté un malaise, je suis parti. Puis un mois plus tard, je me suis retrouvé sur le tournage. C'était My Old Lady avec Christine Scott-Thomas qui me disait des trucs. Je ne comprenais absolument rien de ce qu'elle me disait.
Génial.
C'était une catastrophe. Il me donnait des indications.
Il faut dire qu'elle articule pas non plus.
Et heureusement qu'elle parlait français, et donc elle m'a sorti de ça. Et c'est absurde.
Mais c'est le principe des acteurs qui mentent et qui disent qu'ils montent à cheval. Mmh. C'est magnifique ça, regardez. Tous ces acteurs qui disent, bien sûr, je monte à cheval.
Mais je tombe très bien du cheval. Vous allez voir.
Comme Guillaume Canet, fait toujours croire qu'il s'est monté à cheval.
Alors lui, en revanche, c'est un pro.
Sylvie Testu et Stéphane de Groot sont au théâtre Édouard VII pour cette pièce mise en scène par Ladislas Chola, aux côtés de Clotilde Courau et Stéphane Facot, le tout signé par Florian Zeller. Ça s'appelle La Vérité. Voici Tanguy Pastureau. Ah.
Coucou, moi-même, jeudi, j'ai joué à Besançon, ville de l'horlogerie. J'ai commencé avec un quart d'heure de retard. J'ai cru que j'allais me faire lapider à coup de montre Swatch. Besançon qui a été cité par Jules César dans ses mémoires. Donc c'est toujours chargé émotionnellement de se produire dans une ville riche en histoire. Mais comme en général dans la loge, on voit les affiches de ceux qui ont y joué avant, Patrick Bosseau ou Aldelaf, bon, ça désacralise le truc. Parce qu'autant César, si je me compare, voilà, je vais plus partir sur la terrine pour chien. Je veux dire, le matin, quand je me lève, c'est à ça que je ressemble, en moins carré. Autant Aldelaf, je peux rêver de lui ressembler si j'apprends la gratte et l'amour de mon prochain. Ouais. Parce qu'Aldelaf est l'être humain le plus gentil qui soit. Oh vous lui mettez une clochette, c'est le petit lapin de Lindt qu'on a à Pâques. Ce mec est une publicité clandestine pour l'harmonie et le vivre ensemble.
C'est vrai.
Vous le foutez à CNews, les gens se défenestrent en vomissant. Et donc, chez nous, les artistes de scène, il y a trois écoles. Ceux qui dînent avant le spectacle, ceux qui dînent après, et ceux qui dînent avant et après. Ceux-là, 39 ans, font un double infarctus. Le public pense que c'est à cause de la drogue, c'est à cause du salami. Moi, je dîne avant, mais léger. Voilà, pour être fluide et aérien sur scène. Comme ça, le soir où je me lasse de mon texte, je peux improviser un truc en pas chassé. D'ailleurs, je porte systématiquement un tutu sous mon pantalon au cas où. Bon, ça moule le bas-ventre dans le jean, les gens pensent que j'ai un sexe énorme, mais c'est le tutu plié. Un jour, j'ai croisé une danseuse de l'Opéra de Paris qui n'avait pas eu le temps d'enlever son tutu, elle avait gardé sous le jean. Je lui ai dit, dis donc, Chloé, tu as tes petits secrets? Hein, elle était partie furieuse en levant le doigt du milieu, sans doute dans le cadre de ses assouplissements musculaires d'avant-balaye. Bref, avant le spectacle à Besançon, on m'a calé un resto à côté du théâtre. Resto de viande, l'effet bœuf. Ça laisse peu de doutes sur le menu. Autant quand un resto s'appelle chez Raymond, tu te doutes que tu vas pas manger Raymond. Autant l'effet bœuf, bon, hein, ça sent le bovin. Ouais. Mais le souci, c'est que je suis un bobo vegan parisien.
Ah oui,
un rêve érotique pour moi, c'est Hugo Clément en tenue de cuir végétal qui s'approche de moi en disant, alors on a été vilain, on a mis le verre dans la poubelle à carton. Donc là, je me mets à paniquer parce que je suis entouré de gens qui mangent des steaks. On a plus ça, nous, à Paris. En plus, personne autour de moi n'a demandé d'option sans gluten et un enfant à table joue à la Switch au lieu de colorier son cahier d'activité Montessori. En moi, je hurle, mais on est où, là? Heureusement, la patronne me dit, on vous a fait une assiette végétarienne. Ah. Avant scène, légèreté, osmose, je pense tomate et laitue. Et là, je vois arriver devant moi des frites, plus un plateau de fromage locaux dont de la concoyotte à l'absinthe a étalé sur les frites, la dame me dit. Rien que de voir ça, j'ai un bouton de ma chemise qui a lâché, il est venu taper entre les deux yeux d'un serveur qui est mort. Donc, je ne vous cache pas que le début du spectacle a été difficile. Au premier rang, ils m'ont dit, vous avez du pu qui sort de partout sur le corps, mais c'était la concoyotte qui giclait. Hein, j'ai enfin compris ce que c'était une soirée blanche. Hein, Eddie Barclay, il devait pas bouffer que du colin. Le lendemain, j'ai joué à Dijon, nickel. Bon, je rentre à l'hôtel, je mets la télé, il y a les victoires de la musique. Hein, je réalise que des gens reçoivent des prix et que je ne les connais pas. Léa Salamé et Cyril Ferraud non plus une heure avant, mais enfin, ils ont été briefés. Mais ouf, arrive Zao de Sagazan. Ah oui. Elle, je connais. Parce qu'à France Inter, c'est notre louloute. Elle fait des lives, elle fait ses playlists. Une fois à la cantine, c'est elle qui servait les cordons bleus. C'est notre égérie. Juliette Armanet n'en branle plus une, donc il fallait bien fallu qu'on se rabatte sur quelqu'un. Bref, je vois sa victoire, puis j'éteins et je m'endors parce que j'ai toujours pas digéré la concoyotte à l'absinthe de la veille. Hein, la concoyotte à l'absinthe, Baudelaire consommait ça, mais sans concoyotte. Ouais. Le lendemain, je me lève et là, je reçois un message. On a lu ton interview dans Libé. Qu'as-tu contre Zao de Sagazan, signé l'ensemble des salariés de France Inter, accompagné d'un émoji Daniel Morin sourcil français, ce qui est très menaçant. Et là, je sais ce qui s'est passé. Il y a peu, j'ai répondu par écrit à une interview sur ce que j'écoute comme musique. Ah. Disque préféré, j'ai répondu The Queen Is Dead des Smiths. La chanson que vous avez honte d'écouter avec plaisir, j'ai dit Shame on You de Phil Winter, parce que Phil, c'est mon Camaro à moi. Ah. C'est pour ça, Leïla, ne me jugez pas.
Jamais.
Et il y avait aussi la question, le disque que tout le monde aime et que vous détestez. Donc j'avais écrit l'album de Zao de Sagazan que tous autour de moi aiment et qui, pour l'instant, ne suscite rien en moi, mais ça viendra sans doute, puisqu'un disque, c'est une rencontre, un moment, une atmosphère.
Mmh.
Ok. Sauf que dans Libération, c'est devenu, pour l'instant, Zao de Sagazan ne suscite rien en moi.
Oh non.
Pire, c'est même devenu le titre de l'article. Pire, quand sur Google vous tapez Zao de Sagazan, c'est ça qui sort en premier.
Non.
Et là, je suis mortifié. Mais parce que je lui ai peut-être gâché son week-end, alors qu'elle venait de remporter un prix.
Ouais.
Et je m'en veux, je me suis mis deux claques ce matin. Le restant de concoyote m'est sorti par l'oreille droite et est venu se coller sur le mur chez moi. En plus, ça a été l'engrenage. Mon badge n'est pas passé tout à l'heure. Le vigile de la maison de la radio m'a dit « T'as joué, t'as perdu, connard !» Personne ne méprise Madame de Sagazan. J'ai crié « Mais enfin, ce que je disais, c'est que j'allais l'aimer un jour !» Mes propos ont été plus raccourcis que le sexe du fils du boucher qui, en pleine soirée picole avec des potes, a voulu faire le con avec la trancheuse à jambon de son père. Hein, le vigile m'a répondu en parlant de sexe « C'est quoi le problème? Vous avez une excroissance du pubis parce que c'est énorme !» J'ai hurlé « Mais non, c'est un tutu !» Bon, tout ça pour vous dire que j'espère que Zao de Sagazan ne lit pas Libération pourvu qu'elle soit de droite. Pourvu qu'elle soit de droite. Et que peut-être un jour, elle suscitera en moi des torrents d'émotions parce que c'est ce qu'elle provoque chez les autres. Donc pardon madame et gros bisous.
La bande originale de Sylvie Testu et Stéphane de Groot continue juste après Sharon Van Etten, Idiot Box. Idiot Box de Sharon Van Etten, c'est sur Inter, c'est la bande originale. Au théâtre Édouard VII, en ce moment, se joue la pièce La Vérité de Florian Zeller, mise en scène par Ladissa Chola, avec Claudie de Courreau, Stéphane Facco et nos invités qui sont Stéphane de Groot et Sylvie Testu, d'autres événements culturels. Leïla.
On cherche un film américain qui a peut-être la chance bientôt de recevoir 7 statuettes. Attention, je ne parle pas des belles statuettes, je parle des statuettes peintes à la main qui valent moins de $5 pour les Razzie Awards, les anti-Oscars qui récompensent les pires films et les pires performances.
Joker, ouais.
Absolument, le Joker, la folie à deux, la suite de Todd Phillips est nommée 7 fois aux Razzie Awards.
Pour
cette comédie musicale qui est le pire échec commercial de 2024. Le premier volet, quand même, rappelons-le, avait valu à son acteur principal l'Oscar en 2020. Verdict, le 1er mars, la veille des Oscars. C'est quand même un petit peu...
C'est d'une violence.
C'est un peu violent, mais en même temps...
ça existe en France, le...
Ça existait, c'était les Gérards.
Les Gérards,
oui. Les Gérards
ça, avec, y a plus avec un parpaing, c'est
ouais,
ça
ouais, ouais, mais ils ont plus, je crois qu'ils le font plus, hein, les Gérards. Bon, en même temps, tu es honoré d'un côté, tu peux être un peu moqué de l'autre. Évidemment. Je ne vais pas vous demander le pire film dans lequel vous avez joué, parce que je sais que personne ne le dit jamais. À moins que vous ayez envie.
Peut-être que nous, on peut dire les pires films dans lesquels ils ont joué.
Est-ce que c'est difficile de parler des films dans lesquels soit on n'est pas bon, soit on estime que le film n'est pas bon?
Ah bah c'est même difficile de le tourner parce que pour ma part, moi ça m'est arrivé d'avoir des films, alors je sais pas si c'est les pires, mais enfin, que j'aime moyennement. Et je trouve qu'on le sait presque immédiatement.
Ah c'est vrai? Vous le sentez pendant le tournage? C'est pas une surprise?
Il y a quelque chose d'un coup, on y croyait à la lecture et puis d'un coup on se retrouve là et on se dit merde.
Sylvie Testu, il s'est passé quelque chose de particulier dans le Flair de famille?
Non.
Non, pas du tout.
Vous jouiez à côté de Samuel Labarthe et vous n'y êtes plus.
Je sais pas, c'était pas pour moi.
Ok. Je poserai la même question à Samuel Labarthe que nous recevrons jeudi avec Virginie Hoc, qui a repris brillamment le rôle de Sylvie.
Qui a repris le flambeau. Vous, non? Un film où vous êtes moyennement heureux, sans citer lequel? J'imagine
Je me suis retrouvé vraiment complètement nage. Je me suis dit, il faut que je change de métier en me voyant tellement mauvais.
Voulez vous en parler.
mais ça, vous vous dites pas, je suis pas forcément bien dirigé, j'ai pas compris, on s'est pas entendu, à quoi ça tient?
Oui, c'est un ensemble de choses. Ouais. Et puis, mais après, il y a aussi un film que j'ai accepté, je sais, pour de très mauvaises raisons, et c'était pas bien. Mais après, je me suis dit que c'était une bonne raison, parce que j'ai rencontré quelqu'un sur ce tournage, et je vais la citer, c'est Camille Chamou, qui bien plus tard a parlé de moi à Canal+, et c'est grâce à Canal que j'ai pu être exposé, de faire le métier que je fais aujourd'hui de cette manière-là.
Petite anecdote, mais elle avait tenté de le faire aussi sur Europe 1. Elle parlait de vous, elle a dit, j'ai un super gars qui a un talent fou. Ils avaient dit, non, on n'est pas intéressé. Et 2 ans plus tard, vous explosiez.
Bah, c'est grâce à
elle. Elle faisait déjà à l'époque.
Merci de la citer à nouveau une deuxième fois. Voilà.
Camille Chamou, voilà, 3 fois. Autre question, on cherche une actrice américaine qui a fait une pause de 6 ans dans sa carrière d'actrice. Elle a été oscarisée à 2 reprises pour Retour à Cold Mountain et Judy aussi en 2019. Elle revient dans le 4e volet d'une saga à succès. C'est une comédie romantique que vous connaissez tous. Elle a 55 ans.
Renée Zellweger.
Absolument. Renée Zellweger qui incarnait cette Bridget Jones et qui revient pour un 4e format sur ce personnage de Bridget Jones.
Elle est même carrément productrice de Bridget Jones maintenant.
Ça, je ne sais pas pour le 4e si elle le sera, mais elle explique qu'elle a fait une petite pause de 6 années, tout simplement parce qu'elle en avait marre de se voir et de s'entendre, qu'elle a passé son temps à écrire de la musique, à étudier le droit international, à prendre du temps pour elle, à se refaire une petite santé avant de revenir.
Ça c'est qu'on a déjà bien cartonné, qu'on peut faire ça.
Ouais.
Voilà.
Ou qu'on est peut-être au bord du précipice
si et
qu'on
dit dépression,
il est peut-être temps de s'arrêter. Est-ce que, dans l'absolu, si vous deviez vous autorisiez à vous arrêter, je ne sais pas, le temps de 2-3 années, est-ce que vous savez comment vous pourriez remplir votre temps ou remplir le temps, c'est déjà un aveu d'angoisse.
Moi, j'aime bien travailler et tout ça. Déjà, de fait, quand on est une femme et qu'on est enceinte et qu'on a des enfants, ça fait quasiment 1 an sans travailler.
Oui, on a déjà pris sa petite pause.
Ouais, on fait ses petites... voilà. Et moi, qui en ai 2, j'ai fait déjà mes petites pauses. Mais non, il y a plein de choses à faire. Moi, il y a plein de choses qui m'intéressent.
Alors quoi? Parce qu'on dit souvent, il y a plein de trucs que j'aimerais faire, mais à la fin, on répond
J'écris
pas vraiment.
J'écris des bouquins, moi.
Ouais. Mais le dernier remonte à plus de 10 ans.
Ouais.
C'était 2014, le dernier.
Ouais, mais parce que j'ai pas eu le truc... je suis en train, maintenant.
Ah.
Et je vais essayer de faire rigoler, alors que sur le décès de ma mère, ça va être compliqué, mais je suis en train. Enfin, bref. Et j'aime bien la planche à voile, l'équitation. Enfin, il y a plein de trucs que j'aime, quoi. Mm-hmm. Bouquiner... aller au cinoche.
Ne soyez pas inquiète à l'idée de vous arrêter 2 ans.
C'est un luxe de gaspiller le temps, en fait.
Oui.
Quand on travaille, on doit l'employer.
Oui.
Quand on travaille pas, on peut le gaspiller. C'est quand même pas mal, quoi. Tu te plains en disant, oh là là, je sais pas quoi foutre.
Puis ça passe vite, surtout.
Ouais, 2 ans,
mais c'est alors ça, c'est pire. Ouais. C'est ça qui m'inquiète, moi. C'est que moins on en fait, et plus vite ça passe. C'est hallucinant. J'ai... Ah, j'ai rien.
C'est surtout avec l'âge. Hein. Plus on vieillit, plus le temps passe.
Non, mais ça, je voulais pas le dire.
Ouais. Non, mais je parle pas pour vous, je parle pour moi.
Stéphane.
Ouais, moi, je suis un hyperactif. Alors, d'arrêter
là,
ce métier...
Là, tout de suite, ça se voit pas.
D'arrêter pendant 2-3 ans, enfin quelques temps, je trouve ça même sain par rapport à ce métier qui est très égotique. Et je ressens de plus en plus le besoin d'écrire pour les autres, de mettre en scène, de regarder les autres, de les voir évoluer. Donc, ça, c'est... j'ai très envie de ça, d'écrire. Là, je suis sur des projets d'écriture, d'un bouquin notamment. Et puis, j'ai d'autres choses que je développe qui n'ont absolument rien à voir avec ce métier. J'en parlerai un jour, mais qui
le
n'ont absolument rien à voir.
Des dyslexiques, par exemple.
Ça, c'est quelque chose que j'ai fait avec Canal+, effectivement.
12 épisodes de 5 minutes, ça existe déjà sur MyCanal. Hein.
Oui.
Et le programme est prévu pour durer ou c'était juste une série
alors,
comme ça?
Je l'espère, parce que quand je vois le retour... En fait, je m'adressais chaque fois à un enfant qui avait une 10 quelque chose, et je vois le retour des parents, des enfants qui se disent « Mais c'est pas parce que j'ai une 10 quelque chose, une dyslexie, une 10 que je suis...
Dyscalculie.
Voilà, à me mettre dans un coin et à pleurer. Au contraire, c'est d'en faire quelque chose. Et à travers mon expérience de 10 et de tout, en fait, de tous les problèmes que je peux avoir, et de malgré tout en faire quelque chose pour...
Positiver la différence, en fait.
Oui,
et la,
absolument.
Le défaut. Quant à vous, Sylvie, on vous retrouvera sur France 2, donc j'ai compris, pas dans Flair de Famille, mais dans L2, scénario signé F. De Castro et Sylvain Saada.
Oui, en fait, sont...
L2, D-E-U-X.
Voilà, c'est sont deux femmes, en fait, qui ont leurs enfants, elles sont...
Deux grand-mères.
Voilà, deux grand-mères, en fait, qui ont leurs enfants, qui sont partis en Syrie. Et en fait, la question se pose de comment on récupère cette femme, son mari est mort au combat, cette femme et son enfant. Donc elles se battent.
Des envies d'écrire un long métrage ou de
alors,
le réaliser, Stéphane
Degroote? J'ai passé du temps là, à écrire ma propre pièce que j'ai jouée l'année dernière. Ouais. Et j'adapte pour le moment l'adaptation de cette pièce au cinéma.
Super.
Et puis j'ai écrit une autobiographie qui sortira à la fin de l'année.
Très bien. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, déjà, désolé pour Pierre Arditi qui était choqué par ce qu'on avait dit dans cette émission. Alors, à savoir, Stéphane Degroote a tout fait pour pas jouer comme lui. Super. Et surtout, Pierre me l'a dit en hurlant, le mec, l'ex qui s'est fait prendre en photo avec le César de Sylvie, c'était moi. Je suis très fâché que Sylvie ne soit pas folle de joie à l'idée d'évoquer notre amour passé. Elle était dingue de moi, la testu. Je suis Pierre Arditi. Merde. Voilà, le message est passé.
On l'embrasse.
Désolé pour tous les fans de Stéphane Degroote, fans qui ont l'a bien compris. Pense que leur idole ne va pas hyper bien. Oui, c'est vrai que c'est triste. Un homme qui comprend une pièce à la première lecture et qui plus il la joue, moins il la pige. Ah, il y a 10 ans, il était au top, ouais. Stéphane, mais c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, il est fort diminué, mais encore tellement attention. Allez mon Stéphane, on va y aller, je sais, c'est l'heure de la soupe.
Il est au théâtre avec Sylvie Testu, Stéphane Degroote et Clotilde Courau. Stéphane Facco, ce beau monde sous la direction de Ladislas Chola, mise en scène par Ladislas et écrite, je vais y arriver, par Florian Zeller. Merci Sylvie, merci Stéphane. Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Leïla.
Merci Nagui.
Merci Daniel Morin.
Yes, merci.
Et demain, on se retrouve même endroit, même heure, avec du sucre et des gâteaux, mais pas que. Et tout ça grâce à Christophe Michalak.
Tu vas voir qu'il va rien apporter cette pince.
Passez une belle journée sur Inter.